Le coup d'état de Chéri Bibi, chapitre 8. Monsieur Hilaire. Monsieur Hilaire, je vous prie, voulez-vous lâcher un instant votre politique pour vous occuper de votre commerce? Je vous demande pardon, messieurs, d'interrompre une conversation aussi intéressante, mais, n'est-ce pas, à côté des intérêts de la République, il y a ceux de la grande épicerie moderne. Ainsi s'exprimait, dans un langage pompeux et choisi, Madame Virginie Zénaïde Félicité Hilaire, s'adressant à son mari d'abord et aux amis de son mari ensuite, trois des principaux membres du club de l'Arsenal qui avaient porté au secrétariat de ce cercle politique, célèbre pour ses opinions avancées et son influence à l'hôtel de ville, Monsieur Hilaire lui-même. Ce n'était point cependant que M. Hilaire se sentît un goût très prononcé pour les triomphes passagers de la vie publique. Mais Mme Hilaire avait de l'ambition pour deux, et elle rêvait d'être la femme d'un conseiller municipal. Comme toujours, M. Hilaire avait cédé à Mme Hilaire, dont il avait une sainte terreur. C'était une femme de tête. Elle trônait au comptoir caisse, et le mot « trôner » n'est point de trop pour suggérer l'image de cette dame opulente et dominatrice, hissée au centre de cet appareil imposant qu'était le comptoir de la grande épicerie moderne. Ah, Virginie, la petite servante du Paulé avait engraissé depuis qu'elle avait connu ce pauvre petit garçon qu'était alors la ficelle. Chut! Si la ficelle nous entendait! Et qu'ils avaient quitté tous deux leur premier établissement de la rue Saint-Roch. « Une boîte de pois demi-fin, » énuméra Madame Hilaire, « une boîte de pois fin, une boîte de pois extra-fin. Ah, à propos, Monsieur Hilaire, avons-nous encore des pommes coupées du Canada ?»«
En tout cas, je vous prie de croire qu'à l'enterrement de Carlier et de Bonchamp, on se comptera. » C'est mardi qu'on les enterre, funérailles nationales,
s'écria l'un des plus conséquents membres du club de l'Arsenal en chipant une poignée d'amandes dans un sac qui bâillait à sa portée.
Monsieur Tolosé, fit entendre Madame Hilaire, voulez-vous aller voir avec vos amis au petit café du coin si j'y suis, car j'ai du travail par-dessus la tête. Je vous enverrai Monsieur Hilaire quand je n'aurai plus besoin de lui. « Allons, Monsieur Hilaire, je vous ai demandé si nous avions encore des pommes coupées du Canada. »«
C'est des têtes coupées qu'il nous faudrait !»
s'écria cette grande bringue de Tolosé en entraînant ses amis hors du magasin et en bousculant deux braves bourgeois qui se faisaient tout petits pour le laisser passer.
« Entrez donc, messieurs, c'est un grand fou, il n'est pas méchant !»
« Eh bien, comment ça va, Monsieur Florent? Et vous, Monsieur Barquimel? Vous m'avez l'air tout chose. »«
Madame Hilaire, vous recevez des gens qui vous feront du tort !» émit timidement Monsieur Barquimel.
« Pourquoi donc ?»
demanda Monsieur Hilaire en se redressant, comme on dit, sur ses ergots. « Ce sont mes amis du club de l'Arsenal. Ils ne veulent que le bien du peuple. La preuve, c'est qu'ils m'ont élu. »
« Pour sauver la République ?» répliqua Florent en haussant les épaules.
« Monsieur Hilaire n'est pas plus bête qu'un autre !» fit Madame Hilaire, froissée. « Et ce n'est pas lui qui se laissera éblouir par les galons d'un soldat de 4 sous. Vous pouvez le dire de ma part au subdamoun. »
« Tu vas un peu loin, Virginie !»
releva Monsieur Hilaire, visiblement gêné.
« Fiche-moi la paix !»
« Virginie, chacun peut avoir ses opinions. Nous avons les nôtres, mais il est inutile de nous faire perdre la clientèle de Madame la Marquise du Toucher. »«
Mais qu'elle la garde, sa clientèle? Une pimbèche ?»«
Virginie, je t'en prie !» s'écria Monsieur Hilaire, hors de lui. « Tu oublies donc ?
Et qu'est-ce que j'oublie ? Qu'est-ce que j'oublie ? »
clama-t-elle. Et carrément, elle descendit du comptoir.
« Ah, Monsieur Hilaire, nous allons nous expliquer une fois pour toutes, et nous verrons si à l'avenir tu auras encore des mots à double entente qui médusent tes amis.
Veux-tu me faire le plaisir de passer un instant dans la salle à manger ?»
Monsieur Hilaire ne se le fit pas répéter deux fois. La porte fut refermée avec fracas.
« Qu'est-ce qu'il va prendre ?»
susurra Monsieur Florent, consterné. Madame Hilaire, dans la salle à manger obscure et humide, se laissait aller à la fougue de son caractère vindicatif.
« J'oublie quoi ? Que j'ai été la domestique de Madame la Marquise ? Eh bien, oui, je l'oublie, parce qu'il me convient de ne point me rappeler un temps où, si j'étais moins que rien, Monsieur Hilaire, lui n'était qu'un imbécile qui se laissait tondre la laine sur le dos.
« Virginie, je t'en prie, on pourrait t'entendre. Ne crie pas si fort.
Je crierai si ça me plaît. N'a-t-on jamais vu un tel dadais avec sa madame, la marquise ? Tu en as plein la bouche quand tu prononces ces mots-là.
Oh, ne fais pas le malin, tu sais. Au fond, je connais tes sentiments. Tu as beau faire le démocrate, tu ne demanderais peut-être pas mieux que de retourner lui cirer ses chaussures à madame la marquise. » Et à son Jacques de fils qui joue les petits Bonaparte, que ça en est à crever de rire.
Tais-toi, tu n'as jamais eu qu'une âme de larbin.
Virginie.
À ce moment, on frappa à la porte.
C'est quelqu'un qui désirerait parler à Monsieur Hilaire.
Virginie alla regarder à travers le carreau dont elle fit glisser le rideau du bout des doigts.
Tiens, fit-elle, voilà justement l'ancienne bonne sœur. La dame de compagnie de ta marquise. Je vais la recevoir, moi. Ne te dérange pas. »
Et elle rentra dans le magasin, se planta devant Jacqueline et lui dit
« Madame désire ?»
Jacqueline, n'apercevant pas Monsieur Hilaire, paraissait embarrassée. Elle dit avec une certaine hésitation
« Mon Dieu, madame, je désirerais avoir du savon. »
« À quel parfum, madame ? Nous en avons au...
« Oh, madame, simplement un morceau de savon de Marseille, pour la lessive. »«
Bien, madame, mais je ne pouvais pas deviner, n'est-ce pas ? Garçon, occupez-vous de madame. »
Et elle gravit les degrés du trône.
Quand elle fut servie, Jacqueline prit son courage à deux mains, car cette grosse dame, qui la regardait d'une façon si majestueuse du haut de son comptoir, lui faisait un peu peur. Et elle osa lui demander si Monsieur Hilaire n'était pas là.
« Si, madame, il est là, mais je vous préviens qu'il est très occupé.
J'aurais un petit mot à lui dire.
Mais, madame, je le lui transmettrai.
C'est de la part de madame la marquise du Touchet.
Que ce soit de la part de n'importe qui, madame, je suis madame Hilaire. Je vous prierai de me confier ce que vous avez à dire à mon mari. »
À ce moment, la porte de la salle à manger s'ouvrit et Monsieur Hilaire fit entendre ces mots résolus.
« Mademoiselle Jacqueline, voulez-vous passer dans la salle à manger, je vous prie ?»
Jacqueline, tout effarée, mais heureuse de cette intervention inattendue, s'empressa de profiter de l'invitation pour fuir la terrible Madame Hilaire. Et la porte se referma sur celle qui avait été Sœur Sainte Marie des Anges, et sur celui qui avait été la ficelle. À la caisse, Madame Hilaire suffoquait. Dévorant sa honte, elle se mit à faire de longues additions dans le dessein d'arriver à reconquérir son sang-froid. Dans un coin du magasin, Monsieur Florent et Monsieur Barquimel, qui s'étaient fait servir un petit porto au comptoir de dégustation, détournaient la tête pour qu'elle pût croire qu'ils ne s'étaient pas aperçus de l'incident. Retournons dans la salle à manger, où, avec une décision et une autorité dont il était lui-même étonné, et, disons le mot, épouvanté, car il ne pouvait s'empêcher de songer aux terribles conséquences de son coup de tête, Monsieur Hilaire avait fait entrer Mademoiselle Jacqueline.
« Merci, Monsieur Hilaire, » dit la vieille demoiselle. « Je viens vous demander un service de la part de Madame la Marquise.
Dites vite !» fit Hilaire, qui, le visage tourné du côté de la porte, craignait de voir apparaître son irascible épouse.
Madame la marquise, en se promenant le soir près du grand parc ou en sortant du théâtre, a eu quelquefois l'occasion de rencontrer un vieillard tout courbé par les ans qui vend des olives et des cacahuètes. Elle voudrait savoir absolument qui est ce personnage. sa condition au juste, son nom et où il habite. Et elle a songé à vous, qui lui avez toujours été si dévoué, jusqu'au moment où vous vous êtes lancé dans cette vilaine politique.
« Halte là !» s'exclama M. Hilaire. « Mademoiselle Jacqueline, je ne vous permettrai point de dire que je ne suis plus dévoué à Madame la Marquise. Jamais je n'oublierai qu'elle fut jadis à Dieppe la marraine de notre pauvre petit, qui n'eut point, du reste, l'occasion de profiter d'une aussi haute protection, puisqu'elle attrapa la coqueluche et en mourut. Paix à sa mémoire. Je rendrai à Madame la Marquise le petit service qu'elle me demande. Demain, après-demain ou plus tard, Madame la Marquise saura ce qu'elle désire savoir. Dites-le-lui de ma part. » Il ouvrit la porte et tous deux rentrèrent dans le magasin.
« Je vous assure, Mademoiselle Jacqueline, » faisait tout haut M. Hilaire, « je vous assure que nous ne pouvons baisser nos prix. Il y a une telle crise sur le commerce. »
Ainsi conduisit-il Mademoiselle Jacqueline jusqu'à la porte de la rue, puis il revint vers le comptoir. Mais Madame Hilaire ne disait rien. Elle ne le regardait même pas et continuait à faire des additions. C'était le supplice qui commençait, et M. Hilaire savait qu'il serait terrible. Il poussa un soupir que Madame Hilaire ne voulut pas entendre, car cela entrait dans le supplice de M. Hilaire que sa femme fût sourde. Et ce n'était pas tout. À sa surdité et à son mutisme, elle ajouterait bientôt la mort par la faim, tout simplement. Quand l'heure du déjeuner arriverait, Madame Hilaire déclarerait qu'elle n'avait pas faim. Et effectivement, elle s'assiérait à table mais ne toucherait à rien. Et le soir, à dîner, elle repousserait également toute nourriture, comme une suffragette en prison. Si bien que vers les 10 heures, Madame Hilaire, qui n'aurait rien pris de la journée, ce qui était vraiment excessif pour une personne habituée comme elle à ne se priver de rien, ne manquerait point de se trouver mal et de s'écrouler sur le plancher. C'est à ce moment que M. Hilaire devrait se précipiter sur sa victime, en faisant entendre des cris de désespoir qui feraient rouvrir les yeux et la bouche de son épouse. Les yeux seraient mourants, la bouche dirait d'une voix expirante « Porte-moi dans ma chambre !» La chambre était au premier étage et Madame Hilaire pesait 102 kilos. Voilà pourquoi M. Hilaire soupirait. Chapitre 9. Nous dansons sur un volcan. Cette journée du samedi fut particulièrement inquiétante pour M. Hilaire. Si sa femme avait été de meilleure humeur, il eût pu espérer la faire consentir à aller voir les danses dans les établissements du Grand Parc. Mais, après la scène qu'ils avaient eue, il ne fallait plus y songer. Vers le soir, les nouvelles devinrent si mauvaises et l'écho des rumeurs des faubourgs populaires si menaçant que M. Hilaire ne fut nullement étonné de voir entrer dans son magasin le citoyen Tolosé, qui tenait une feuille de la dernière heure et qui criait une fois de plus qu'il fallait sauver la République. Il venait annoncer à M. Hilaire que tous les clubs, dans tous les districts, étaient convoqués le soir même en séance exceptionnelle pour prendre des résolutions et émettre des vœux destinés à soutenir et au besoin à forcer la main au gouvernement et à la commission d'enquête dans leur poursuite contre les assassinats de Carlier et de Bonchamp. Ayant conseillé à M. Hilaire de se rendre de bonne heure, vers les 7h30 au plus tard, à son poste de secrétaire, Tolosé, de plus en plus excité, reprit le chemin de l'arsenal. Mais il laissait M. Hilaire dans la joie. Sous prétexte de se rendre au club pour y accomplir des devoirs inéluctable, M. Hilaire sortirait de bonne heure, et, ma foi, il ne serait pas autrement fâché de remplacer une soirée qui avait menacé d'abord d'être plutôt pénible, qui s'était annoncée ensuite comme exclusivement politique, de la remplacer, disons-nous, par une nuit de plaisir, de chants et de danse au Grand Parc.
Il irait au bal, en compagnie de ses braves amis, Barkimel et Florent, lesquels ne le gêneraient en rien dans ses recherches. Fort de ce que le farouche Tolosé venait de dire devant sa femme, et après avoir calculé que la défaillance de Madame Hilaire se produisait généralement vers les 8h30 après le dîner, il s'exprima ainsi. « Tu vois, Virginie, que je ne pourrai pas dîner. Du reste, je suis comme toi aujourd'hui, je n'ai pas faim. Je partirai pour l'Arsenal à 7h30. » Mais à 7h30, il dut déchanter, quand toutes les portes du magasin ayant été fermées, il vit Madame Hilaire glisser dans sa poche la clé de la dernière ouverture basse percée dans la tôle et s'acheminer vers la salle à manger, où la bonne venait de découvrir une soupière fumante. Madame Hilaire, sans paraître émue par les émanations du potage aux légumes, s'assit et se mit à lire le journal apporté par le citoyen Tolosé. Monsieur Hilaire la considéra d'un œil consterné. « Virginie !» lui dit-il de son ton le plus humble et le plus engageant. « Virginie, as-tu bientôt fini de me faire de la peine ? Tu sais que je dois être à 7h30 au club. Pourquoi me refuses-tu la clé de la porte ? Il faut que je m'en aille. » Silence de Virginie. « On me blâmera et on me cassera. Et tu seras bien avancée, toi qui désires avoir un mari conseiller municipal. Tu ne veux pas manger ? Et tout à l'heure, il arrivera ce qui arrive chaque fois. Épuisée par le besoin, vaincue par la faiblesse et victime de ton amour-propre, tu t'écrouleras sur le plancher. Et je croirai une fois de plus que tu vas mourir, moi qui t'adore. » En effet, voilà soudain que Virginie laisse glisser sa tête sur son épaule, ouvre la bouche comme pour exhaler un dernier soupir et montre des yeux expirants. Puis, elle s'écroule sur le plancher, assez adroitement cependant pour ne point casser la chaise. « Là, qu'est-ce que je te disais ?» s'écrie Monsieur Hilaire hors de lui. Cette fois, il ne pousse aucun cri de désespoir, mais montre tous les signes de la plus folle exaspération. Et, comme son malheur veut qu'il ait à côté de lui un baril de mélasse dans lequel trempe la pelle à servir, il charge cette pelle d'une abondante marchandise et envoie à toute volée son cataplasme sur la figure agonisante de Madame Hilaire. Fin du silence de Virginie et résurrection de la bonne dame. « Brigand ! » hurle-t-elle. « Bandit ! Cartouche ! Robert Macaire ! Balao ! Chéri Bibi ! » Enfin, tu parles ! » Virginie s'était relevée sans l'aide de personne, et tout en vomissant ses injures encombrées d'un sirop qui lui coulait de toutes parts, elle s'était ruée sur son mari. Mais ce dernier n'avait point quitté la pelle à mélasse et déclarait froidement qu'il n'hésiterait point à sacrifier le reste du tonneau si Madame Hilaire ne consentait à reprendre ses esprits. Alors, vaincue, elle se mit à pleurer. Ce n'était point un spectacle charmeur que celui de Madame Hilaire pleurant dans sa mélasse, mais il apitoya ce bon Monsieur Hilaire. « Allons, poupée » fit-il, plus ému lui-même qu'il n'eût fallu le paraître en un pareil moment pour garder tout le bénéfice d'une telle victoire. « Je vois ce que c'est. Tu veux que je te porte dans ta chambre, comme les autres fois. » Et il porta Madame Hilaire dans leur chambre du premier étage, déployant une force peu commune pour son âge déjà mûr. Monsieur Hilaire ne redescendit de cette chambre que le lendemain matin, pour l'ouverture du magasin, car le dimanche, le magasin, servi par un personnel restreint, était ouvert jusqu'à midi. Madame Hilaire apparut bientôt à son tour. Elle s'en fut à son comptoir, et vaqua à ses occupations coutumières avec une mine satisfaite et une grâce nonchalante dont tout le monde fut charmé. Monsieur Hilaire tout le premier. « Au fond, songea-t-il, ce n'est pas une méchante femme, elle est dépourvue de rancune. » Sur ces entrefaites, survint Mademoiselle Jacqueline, son livre de messe à la main. Monsieur Hilaire s'empressa auprès d'elle pour lui dire tout bas
« Je ne sais rien encore, mademoiselle Jacqueline. Il m'a été impossible de sortir hier soir. Mais ce soir, soyez sûre. »
Et il lui jeta tout haut. « Qu'est-ce que mademoiselle Jacqueline désire ?»
Mais tout de suite, il se rendit compte que son manège avait manqué de légèreté et de naturel. De son côté, mademoiselle Jacqueline rougit. Il rougit à son tour. Elle balbutia « Je désirerais des mendiants et des noisettes Aveline, monsieur Hilaire. »
« À 4 francs le demi-kilo ?»«
Oui. » En la servant, il risqua un coup d'œil du côté du comptoir. Madame Hilaire faisait ses additions. Elle ne devait s'être aperçue de rien.
« Vite, filez !»
Jacqueline s'en alla. Monsieur Hilaire revint au comptoir, les mains dans les poches, avec un air détaché.
« Ma bonne Virginie !» fit-il à son exquise moitié. « Si tu veux, nous irons faire un petit tour cet après-midi. »
Silence de Virginie.
« Je t'offre une promenade en voiture. »
Silence de Virginie.
« Ce soir, nous pourrions aller au théâtre. »
Silence de Virginie.
« Au bal !»
Silence de Virginie.
Monsieur Hilaire n'y tint plus. Il se claqua la cuisse, croisa les bras, fit « Oh !»
Et puis, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il avait bondi jusqu'à la salle à manger, où, en un tournement, il s'était débarrassé de son tablier à bavette, avait revêtu son veston qui pendait à une patère et coiffé son chapeau melon du dimanche. Une demi-minute plus tard, il était dans la rue.
« Monsieur Hilaire !»
clama Madame Hilaire. Mais Monsieur Hilaire ne répondit point à cet appel, qu'il jugea trop tardif, et il continua hâtivement son chemin. Au coin de la rue Saint-Antoine, il rencontra messieurs Barquimel et Florent, qui venaient chez lui, effrayés par les nouvelles du jour.
« Nous dansons sur un volcan !» dit monsieur Barquimel.
« Sur ce que vous voudrez, » répliqua monsieur Hilaire.
« Mais dansons !»
Et il les entraîna. Ce dimanche, malgré l'heure matinale, les rues étaient déjà animées d'une foule oisive, inquiète, prêtant l'oreille à tous les bruits, prompte à s'émouvoir et traduisant son émotion par des cris, des proclamations, des chants. Il y avait des mouvements de troupes, deux bataillons qui avaient quitté leur caserne pour venir renforcer la garde du palais Bourbon où continuait de siéger la commission d'enquête, furent acclamés. Flotard, le gouverneur civil, qui passa à cheval entre deux généraux, arborant un magnifique costume copié sur celui des commissaires aux armées, fut hué et acclamé tour à tour. Un peu partout, de vigoureux horions furent échangés. Les éditions spéciales des journaux vinrent apporter des nouvelles de la commission d'enquête. En dépit du secret extraordinaire dont elle entourait ses travaux, on savait qu'elle avait décidé de demander, dès le début de la séance de lundi, la suspension de l'immunité et de l'inviolabilité parlementaire pour plus de 150 députés et sénateurs dont on donnait les noms et qu'elle rendait responsable de l'assassinat de Carlier. En tête de liste, on lisait le nom du commandant Jacques. Mais revenons à nos trois promeneurs, à messieurs Hilaire, Barquimel et Florent, qui, arrivant en place de l'hôtel de ville, furent si brutalement bousculés qu'ils se résolurent à passer sur la rive gauche. Mais là, ils trouvèrent l'université en ébullition, et pour fuir une charge de cavalerie, ils durent se réfugier dans une cour. Ils s'aperçurent qu'ils étaient en plein club des Francs Archers, mais qu'ils avaient perdu Monsieur Hilaire, lequel avait soudain disparu. Paris était encombré maintenant de ces clubs que soutenaient mystérieusement les communistes internationaux en attendant leur tour. Les cercles populaires avaient établi leur tyrannie dans tous les districts et leurs orateurs ne se gênaient plus pour déclarer que la Convention française n'avait rien fait de bon tant qu'elle n'avait pas été dominée par la Commune.
De là, à prêcher un gouvernement de l'hôtel de ville, il n'y avait plus qu'un pas. Sans compter que les clubs se permettaient d'envoyer des délégués au gouvernement, qui étaient obligés de les recevoir. Ils lui signifiaient des réclamations et des résolutions, et même des dénonciations. De la dénonciation à la mise en accusation, il n'y avait pas loin non plus. Monsieur Florent secouait la tête devant les gémissements de ce pauvre monsieur Barquimel. Ils auront beau faire, ils n'approcheront jamais de ce club des Jacobins de dictatoriale mémoire, où les membres du comité de salut public venaient prendre le mot d'ordre du peuple, où l'on donnait la liste des suspects, des accapareurs et des agents de Pitt et de Coubourg, que le tribunal révolutionnaire se chargeait de son côté d'envoyer à la guillotine. Au fond, M. Florent tremblait dans sa culotte. Ce qu'il en disait, c'était pour rabaisser la superbe de M. Hilaire, secrétaire de l'Arsenal, et pour étonner M. Barquimel par son érudition. Mais il commençait à n'être point plus rassuré que l'ex-marchand de parapluies. Et ce fut lui qui, le premier, demanda à quitter cette cour, où un orateur de carrefour s'écriait « Le peuple seul, citoyen, jouit du privilège de ne pas se tromper. Il faut que le peuple envoie des commissaires dans les provinces. Il faut qu'il destitue tous les généraux et qu'il les remplace par des enfants du peuple, comme le firent les Français en 93. Il faut que les soldats élisent leurs officiers. » Et nous n'aurons plus à compter avec l'aventure d'un commandant Jacques qui est la honte de la République. Citoyens, le monde a les yeux sur vous. Vous faites l'admiration de l'univers. Et c'est le club de l'université et des francs archers qui sauvera la France et l'Europe du dernier effort de la tyrannie.
Sortons, souffla M. Florent en saisissant un pan de la jaquette de M. Barquimel.
« Oui, sortons !» grelotta M. Barquimel. « Cet homme me fait peur. Il parle comme un bolchevique. » Et ils se dirigèrent vers la sortie. Ils avaient perdu leur sauvegarde, ce bon M. Hilaire, dont ils appréciaient par-dessus tout l'amitié tutélaire, et qu'ils fréquentaient avec assiduité à cause de sa situation exceptionnelle au club de l'Arsenal. Ils le retrouvèrent sur le trottoir, regardant de droite et de gauche et paraissant fort en peine. « Mes amis, leur dit-il, vous n'avez point vu un vieux bonhomme qui a des lunettes noires, qui marche tout courbé et qui a au bras un petit baril plein d'olives et de cacahuètes. Tout à l'heure, il est entré une minute dans la cour du club des Francs Archers, le temps de dire un mot à deux hommes qui se trouvaient à côté de vous. J'ai couru après lui, mais les deux hommes m'ont bousculé et je n'ai plus revu le marchand de cacahuètes. Je me suis retournée du côté des deux hommes et je ne les ai plus revus non plus. « Et que voulez-vous faire avec votre marchand de cacahuètes ?» demanda M. Florent.
« Eh bien, lui acheter des cacahuètes !» répondit M. Hilaire.
Soudain, il jeta un cri et se faufila avec une rapidité surprenante parmi les groupes. Messieurs Barquimel et Florent crurent l'avoir perdu encore une fois, mais ils le rejoignirent sur le quai, et tout de suite il leur fit signe de se tenir tranquille et de se taire. Alors ils s'aperçurent que M. Hilaire suivait deux individus d'une tenue et d'une allure singulières. Au premier abord, ces deux individus donnaient l'impression de matelots, avec leur déhanchement, leur façon de marcher en tanguant, leur manière de rouler les mâchoires, comme s'ils exprimaient le jus d'une éternelle chic. Mais leur figure n'avait pas cet air bon enfant et naïf que l'on voit aux marins embordés dans les villes. Il se dégageait de toute leur personne quelque chose de redoutable, et ils étaient loin d'inspirer, à première vue, la confiance. Enfin, ils parlaient le langage des pires apaches. Messieurs Barquimel et Florent ne purent comprendre l'intérêt que pouvait avoir M. Hilaire à suivre ainsi ces formidables drôles. Ils firent comme lui cependant. M. Hilaire était fort attentif à ce qui se disait devant lui.
bien que messieurs Florent et Barquimel restassent persuadés qu'ils ne devaient pas comprendre plus que cette étonnante conversation.
« Mon vieux Jean-Jean, papa n'a pas l'air à la rigolade aujourd'hui. Il a déposé 12 cacahuètes sur la table au frangin qui jaspinait aux francs archers. »«
12 ? C'est une de moins que 13 !» répliqua Polydore.
« Et quand on en reçoit 13, m'est avis qu'on peut numéroter ses os. »«
T'as vu que le braillard a pâli ? Je parie que v'là un frangin qui a voulu écouter du cravely plus que ça ne faisait plaisir à papa. »
« Possible, il n'est pas encore à la coule. Il vient de tirer Saint-Longe, Saint-Canet, en centrousse, et à ce qu'il paraît qu'il n'a rien eu de plus pressé que de rouquiller au faubourg pour retrouver son ancienne tôle de la rue Saint-Margot. C'est là que papa l'a trouvé. »«
Oui, maintenant il faudra qu'il marche droit,
pour le mignard, le commandant. »
Tout à coup, ils se retournèrent, car il leur semblait qu'ils étaient suivis d'un peu trop près. Ils lancèrent un tel coup d'œil à messieurs Barquimel et Florent que ceux-ci n'eurent plus la force ni d'avancer ni de reculer.
« Eh bien, fit monsieur Hilaire, qu'est-ce qui ne va pas ?
Est-ce que nous n'allons point bientôt quitter ces quais ? »
exprima en tremblant monsieur Barquimel.
« Je serai d'avis, dit monsieur Florent, que nous fassions un petit tour au bois de Boulogne avant déjeuner.
« Ma foi !» fit tout à coup monsieur Hilaire.
« Ça va !»
Et en deux bonds, il avait atteint le marchepied de l'autobus qui venait de s'arrêter et où venaient de monter justement messieurs Jean-Jean et Polydore. Les deux bourgeois suivirent et ne furent pas peu épouvantés de se retrouver sur la plateforme côte à côte avec les deux terribles Mathurins, qui, cette fois, s'était mis à les dévisager d'une façon farouche.
« C'est-y que t'as un faible pour les casseroles ?»
demanda Jean-Jean à Polydore.
« Pas puqueté, mon vieux !»«
Non, pas puqueté !»
répondit Polydore. « Et je vais même te raconter une petite histoire qui te fera ben gondoler à cette occasion. »«
Je la connais !» fit Polydore.
« C'est l'histoire du nommé Gésier qui n'avait qu'un œil et à qui on avait dit
« Filez-le, couchez-le, levez-le et ouvrez l'œil. » »«
Juste, pauvre Gésier, il m'a filé, il m'a couché, il m'a levé. » »« Il m'a suivi le jour et la nuit. » »«
Mais il n'ouvrira plus jamais l'œil. » »«
Tu te rappelles ce coup de savate ?»«
Quoi, la rousse de tous les pays peut bien nous foutre la paix. On fait pas de mal. » On est ses héros. On a fait le sub d'Amoumle, le gouvernement nous a félicités.
Qu'est-ce que t'en dis, Polydore, si on leur secouait le médaillon ?
Je descends,
grelotta entre ses dents monsieur Barquimel.
Nous descendons au prochain arrêt, fit monsieur Florent, qui n'en menait pas plus large.
Alors, vous me fâchez, fit tout haut monsieur Hilaire. Je croyais qu'on allait faire un tour au bois.
« Je n'en ai plus envie !»
déclara M. Barquimel. À l'arrêt suivant, M. Barquimel et M. Florent se jetèrent hors de la voiture. Ils furent rejoints par M. Hilaire qui riait de leur effroi.
« Eh bien, vous êtes rien capon, vous savez !»«
Je me demande !» s'écria M. Florent, sitôt que l'autobus eut disparu avec fracas.
« Je me demande quelle sorte de plaisir vous pouvez bien trouver à écouter un langage aussi effroyable. »«
Écoutez, mes amis !»
dit monsieur Hilaire qui semblait avoir son idée. « Je vous offre à déjeuner dans un petit restaurant situé en face de la gare des Batignolles et qui a une spécialité de tête de veau dont vous me direz des nouvelles. »«
J'adore la tête de veau !» acquiesça monsieur Florent.
« En route, donc !»
Vers les midi et demi, les trois amis firent leur entrée dans un restaurant au coin de deux rues animées. La salle était déjà à peu près pleine.
« Messieurs, fit Hilaire, qui semblait chercher quelque chose ou quelqu'un, si vous le voulez bien, puisque cette salle est pleine, nous allons monter dans le cabinet du premier étage. »
Messieurs Florent et Barquimel, qui étaient arrivés au haut de l'escalier,
poussèrent une sourde exclamation et eurent un mouvement de recul. À une table, en face d'eux, contre la fenêtre, les deux formidables Mathurins achevaient de déjeuner. Et déjà, M. Marquimel entraînait à reculons M. Florent dans le trou du petit escalier en tire-bouchon, d'où émergeait à demi le long corps de M. Hilaire.
« Qu'avez-vous ? » dit d'une voix calme M. Hilaire.
« Et pourquoi tout ce tapage ? » Jean-Jean et Polydore s'étaient levés après avoir jeté un billet sur la table. Ils se regardaient maintenant en allumant leur cigare de 6 sous. Et ils avaient l'air, dans leur épais mutisme, de se concerter du coin de l'œil sur le genre d'opération qui allait les débarrasser pour toujours de ces 3 gêneurs qui les poursuivaient depuis le matin. Leur dessein était devenu si visible, et le grognement qu'ils firent subitement entendre en s'avançant droit sur le trio parut si épouvantable à messieurs Barquimel et Florent que ceux-ci se mirent à pousser des cris d'écorchés. Ils se jetèrent dans l'escalier. M. Hilaire, qui les reçut dans ses bras, prit aussitôt la parole en ces termes.
« Messieurs, je vous assure, vous vous méprenez étrangement. Le hasard nous a conduits sur vos pas. Ces messieurs sont bel et bien d'inoffensifs bourgeois.
L'un est mon ami Florent, qui a tenu jadis une papeterie dans le district du Marais. L'autre est mon ami Barquimel, qui fut marchand de parapluies dans les mêmes parages. Je les connais depuis 15 ans. Ils sont incapables, comme vous le voyez, de faire du mal à une mouche, et il a suffi que vous les regardiez de travers pour qu'ils s'évanouissent dans mes bras.
Et vous qui jactez si bien, qui êtes-vous donc ?
Demanda M. Jean-Jean d'une voix terrible. Je suis M. Hilaire, directeur et propriétaire de la grande épicerie moderne, fournisseur du commandant Jacques, pour vous servir. Cette déclaration produisit immédiatement son petit effet.
« Vous connaissez le commandant Jacques ?»
demanda Jean-Jean sur un ton tout adouci.
« Si je le connais, nous avons fait nos premières études ensemble, et j'ai été longtemps au service de Madame la marquise du Touchet. »«
Vous connaissez la marquise du Touchet ?» s'exclama Jean-Jean.
« Il connaît la daronne !» répéta Polydore.
Et mademoiselle Jacqueline, et mademoiselle Lydie, et toute la famille, et j'en suis fière, croyez-le bien. Et si vous êtes de leurs amis, permettez-moi de vous le dire. Les amis de mes amis sont mes amis. Le jour où, passant devant mon seuil, il vous plaira de venir boire à la santé du commandant, ce sera un beau jour pour la grande épicerie moderne.
Et puisqu'il en est ainsi, commençons tout de suite.
Proposa Jean-Jean. Une tournée à la santé du commandant. Rassurés, messieurs Barquimel et Florent serrèrent avec effusion les rudes mains de leurs nouveaux amis. On appela le garçon, on but, on trinqua, on cria « Vive le commandant !» Et après une dernière accolade et un dernier coup d'œil sur la pendule, les deux Mathurins descendirent. Monsieur Hilaire se précipita à la fenêtre. Monsieur Barquimel dit à Monsieur Florent « Commandons le déjeuner, moi je meurs de faim. »«
Eh bien, qu'est-ce que vous regardez là, Monsieur Hilaire ?»«
Eh, mais ce sont mes deux hommes qui traversent le boulevard. »«
Ces deux louches individus ont l'air de vous préoccuper, vraiment. »
fit timidement Monsieur Barquimel en tirant la manche de Monsieur Hilaire.
« Savez-vous bien qu'ils auraient eu bien des excuses de nous casser la figure ?»
ajouta M. Florent. « Nous les suivons depuis ce matin. »«
Sans doute, M. Hilaire, vous les avez entendus parler entre eux de ce restaurant et vous nous avez fait la mauvaise farce de nous amener ici sans nous prévenir. »
Mais M. Hilaire, toujours à son poste d'observation, ne semblait rien entendre.
« Tenez, les voilà qui entrent dans ce bel hôtel !»
dit M. Barquimel, qui s'était mis lui aussi à regarder à la fenêtre.
« Ma parole, ils entrent là, comme chez eux !»
Le garçon venait de remonter avec les couverts. M. Hilaire se retourna vers lui et l'interrogea.
« Dites-moi, garçon, quel est ce bel hôtel là-bas, de l'autre côté du boulevard ?»«
Cet hôtel-là, répondit le garçon d'une voix caverneuse. « C'est celui de mademoiselle Sonia Liskine. Et le monsieur qui descend de voiture et qui entre dans l'hôtel, c'est monsieur Lavaubourg, vice-président de la Chambre des députés, qu'on dit son ami, et qui est un traître à la République. Ces messieurs ont choisi ?» Monsieur Hilaire commanda ce qu'il voulut. Messieurs Barquimel et Florent n'avaient plus faim. Chapitre 10. Le marchand de cacahuètes. Lavaubourg s'était fait annoncer à Sonia. C'était la première fois qu'il allait la revoir depuis son terrible entretien avec le baron d'Ascoff. La veille, il s'était présenté à l'hôtel vers les 5 heures, mais on lui avait répondu que madame était sortie et qu'elle dînerait en ville. Vers les 11 heures, il était revenu à l'hôtel. On lui avait dit que madame s'était couchée, qu'elle avait eu un violent mal de tête, qu'elle avait prié qu'on la laissât reposer et qu'on avertit monsieur Lavaubourg, s'il se présentait à l'hôtel, qu'elle comptait sur lui au déjeuner du lendemain. Lavaubourg avait passé la nuit du samedi au dimanche sans fermer l'œil. Il n'avait point revu Ascoff, mais il n'avait cessé de penser à lui et à ce qu'il lui avait dit. Et il n'était plus sûr de rien. Il ne doutait point qu'Ascoff fût très épris de Sonia. Le baron avait peut-être parlé par jalousie. D'autre part, Lavaubourg tenait d'Ascoff lui-même que celui-ci ne travaillait pour le commandant que contraint et forcé, et qu'il détestait Jacques. Ascoff n'avait peut-être imaginé toute cette horrible fable des amants surpris que pour le déterminer, lui, Lavaubourg, à une vengeance qui aurait fait surtout son affaire à lui, Ascoff. Peut-être aussi avait-il dit la vérité. Lavaubourg souffrait tellement de cette vérité-là qu'il était disposé de plus en plus à ne pas y croire. « Bonjour, Lucien !» Elle venait d'entrer. Elle avait une de ces charmantes toilettes floues d'intérieur, robe de déjeuner intime, faite de quelques chiffons, dont toute la façon consistait dans l'art avec lequel elle les drapait autour de ses belles formes souples. Rarement elle l'appelait ainsi par son petit nom. « Lucien ?» Il la regarda. Elle lui dit tout de suite « Vite que je vous rassure, tout va bien. Il ne reste plus qu'une petite formalité dont je vous parlerai tantôt. Et bientôt, toutes vos transes seront finies. Voyons, racontez-moi tout ce que vous avez fait depuis que je ne vous ai vu. « Et vous ? » fit-il brusquement. La réplique était partie malgré lui. Surprise du ton dont cela avait été lancé, elle le fixa avec audace, peut-être avec trop d'audace. « Comment ? Et moi ? » ?»« Oui, et vous ? Voilà 2 jours que je me présente à votre hôtel et 2 jours qu'il m'est impossible de vous voir. »« Vous vous présentez à mon hôtel ? On ne vous reçoit pas ? Vous savez bien que vous êtes chez vous dans mon hôtel. Mais vous êtes fabuleux, mon cher. Je dînais en ville, tout simplement. Voyons, Lucien, sérieusement, qu'est-ce que vous avez ? Rien, rien, fit-il en lui prenant les mains et en les couvrant de petits baisers précipités. Rien. Et puis, dit-elle de sa belle voix grave et richement timbrée, et puis j'ai travaillé avec Jacques. « Ah ! Cela vous étonne ? Pourquoi dites-vous « ah » de ce ton de mélodrame ? Vous êtes toujours jaloux ? Vous m'amusez, vous savez, avec votre jalousie. Ah, mon pauvre ami, si vous saviez ce que je compte peu pour lui !»« Oui, oui, vous dites toujours cela, mais dois-je vous croire ?» Et il lui souriait maintenant. Lui, il ne croyait plus, non, il ne croyait plus l'affreuse chose. Sonia était trop simple, trop franche, et lui montrait un si honnête visage. « Ne reparlons plus de ces enfantillages, supplia-t-il, et causons un peu politique. Voyons, est-ce que je vais bientôt être mis dans le grand secret ?»« Tout de suite, mon cher, c'est-à-dire après le déjeuner. Vous saurez tout, et c'est moi qui suis chargée de tout vous apprendre. Plaignez-vous !» Nous allons passer un bel après-midi ensemble. Voici le programme de la journée. Déjeuner intime dans le petit boudoir.
À ce déjeuner, il n'y aura que Jacques, que personne ne saura ici. Askoff, qui viendra ostensiblement, vous et moi. L'après-midi, nous travaillons tous les deux. Le soir, nous dînons dans un restaurant du boulevard, vous, Askoff et moi. Il faut que nous nous montrions, mon cher. Ensuite, nous irons au théâtre et, à minuit et demi, au bal du Grand Parc, où nous avons une loge. Quand on nous aura vus jusqu'à 2 heures du matin, faisant la fête, le gouvernement sera peut-être rassuré sur la grande conspiration. À 2 heures, nous rentrons ici tous les deux, où nous retrouvons Jacques et où nous l'aidons dans son dernier travail. Ainsi, on ne se quitte plus jusqu'à ce que nous ayons sauvé la République. Et il n'entre pas encore dans votre pensée que vous ayez à redouter quelque catastrophe. Tout est possible, mais je ne la crains pas. Je vous admire. On annonça le baron. Elle alla au-devant de lui, lui serra la main avec une grande cordialité et s'excusa de les laisser un instant tous les deux. Askoff s'en fut tout de suite à la Vaubourg. « Eh bien ?»« Eh bien !» répéta la Vaubourg en ouvrant négligemment un journal. « Avez-vous du nouveau ?»« Et vous ?»«
Moi, ma foi non, je vous dirai que je n'ai pas ouvert une feuille depuis 48 heures et que j'ai renoncé à comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe autour de moi. J'ai essayé de faire parler Sonia. » Elle a renvoyé ses confidences à une heure encore indéterminée. J'ai essayé de vous faire parler, vous. Vous avez été plus mystérieux à vous tout seul que tous les autres réunis.
« Il me semble, » fit Askoff à voix basse, en regardant la Vaubourg avec un certain étonnement. « Il me semble qu'il y a un point sur lequel je n'ai pas été mystérieux avec vous.
« Oui, je sais. » répondit brusquement la Vaubourg en jetant son journal. « L'histoire de Sonia et de Jacques. Eh bien, je vous dirai la vérité, mon cher. Je n'y crois pas. »
Askoff recula d'un pas. Certes, il ne s'attendait point à un pareil revivement.
« Alors, vous croyez que j'ai inventé cette histoire ? Mais nous en reparlerons. Chut, la voilà. »
Sonia rentrait. « Vite, mes enfants, montons !» leur jeta-t-elle joyeusement. « Le commandant est arrivé !» Ils trouvèrent Jacques dans le petit boudoir où la table avait été dressée. Ce fut tante Natacha qui servit. Le déjeuner commença d'abord dans le plus profond silence. La Vaubourg observait Jacques et Sonia. Ils ne se regardaient même pas et paraissaient tout à fait à l'aise. Enfin, le commandant se tourna vers la Vaubourg. « Mon cher la Vaubourg !» lui dit-il. « Nous touchons au but. Tout me fait croire que nous réussirons. En cas d'insuccès, je prendrai tout sur moi. Sonia va vous demander tout à l'heure un petit service. Il s'agit de signatures. Si l'affaire tourne mal, vous pourrez dire que ces signatures vous ont été extorquées de force et sous menace de mort. Je ne vous contredirai point. En cas de succès, vous partagerez ma fortune. » Nous aurons un gouvernement provisoire avec un duumvirat. Nous nous partagerons le pouvoir. » La Vaubourg ne trouvait rien à répondre. Il paraissait très occupé par son assiette, et cependant, les morceaux ne passaient que très difficilement.
« Eh bien, vous êtes sourd ?» dit Sonia, impatientée.
« Non, ma chère, » répondit-il. « Le commandant sait que je lui suis tout acquis. » Et je lui souhaite le succès de son entreprise pour le pays. Quant au danger, je saurai en prendre ma part.
« Ce pauvre La Vaubourg, » dit en riant le commandant, « est de beaucoup le plus brave de nous tous, car au fond, il est le moins rassuré et il marche quand même. Il est bon que vous sachiez que c'est sur mon ordre que certains journaux ont répandu les bruits les plus sinistres, relativement au dessein de la commission d'enquête. J'ai voulu impressionner un peu mes troupes avant d'aller au combat, pour qu'elles sachent bien qu'il n'y aura de salut que dans la victoire. Baruch, le président du Sénat, m'a fait savoir que l'état d'esprit de la Haute Assemblée était excellent
et que la peur avait fait tomber les dernières hésitations. J'ai d'autre part de très bonnes nouvelles de l'armée. Elle est tout entière avec nous. Il ne tient qu'à nous d'avoir son concours. Elle nous le donnera si nous sommes la loi. Ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, c'est suffisant. Après, elle ne nous le retirera plus, car nous serons la force. Fit Askoff, tout cela est très beau, mais j'aimerais mieux des noms de généraux.
Avec cela que vous ne les connaissez pas, dit Jacques.
Mon cher Askoff, je ne vous ai encore rien promis. Vous nous avez été si utile et vous vous êtes montré si merveilleusement ingénieux pour la garde de nos petits secrets et la sécurité de nos chères personnes que je ne sais que vous offrir. C'est bien simple, vous prendrez tout ce que vous voudrez. N'est-ce pas, la Vaubourg ?
Askoff avait fait un signe à la Vaubourg et, après avoir pris congé, s'était éloigné, disant qu'il n'avait pas un instant à perdre. Aussitôt, la Vaubourg fit
« Ah, vous permettez, j'ai un mot à dire à Askoff. »
Et il quitta la pièce, refermant la porte sur Jacques et sur Sonia. Alors, Askoff lui fit entendre de le suivre à pas de loup dans un petit corridor obscur qui, par derrière, rejoignait le mur du boudoir. Là, il fit glisser une étoffe et lui désigna une fente dans la cloison, à laquelle la Vaubourg appliqua immédiatement un œil. Ce qu'il vit ne fut point d'abord pour l'émouvoir. Jacques et Sonia étaient debout tous deux. Jacques rangeait des papiers dans son portefeuille. Puis ils échangèrent quelques mots insignifiants. Enfin Jacques prononça « Et maintenant, pour sortir, il faut que j'aille me redéguiser. Au revoir, Sonia. » Et il se pencha avec une extrême politesse sur la main qu'elle lui tendait. Mais comme il se relevait, elle lui prit la tête à pleine main et lui planta sur les lèvres un baiser dont il se défendit à peine.
« Sonia, vous êtes folle ! Vous êtes folle !»
Et quand il put respirer, « Et vous m'aviez promis d'être raisonnable. »«
Jacques, je vous adore !»«
Vous savez bien que c'est défendu, pendant 48 heures !» À ce soir. Et il disparut par la petite porte derrière le grand portrait en pied. Sonia resta quelques secondes immobile.
Mais c'est vrai que je suis folle.
Et tout à coup elle murmura.
Je ne pense plus à la Vaubourg, moi. Où donc est-il passé?
Elle le trouva dans le fumoir, fumant comme un sapeur.
Quel tabagie! S'exclama-t-elle. « Je croyais que vous ne fumiez plus de cigares. Et vous prenez de l'alcool maintenant ?»
La Vaubourg était étendue sur un divan et s'était fait servir une fine champagne. La Vaubourg stupéfia cet après-midi-là Sonia Liskine par l'empressement plein de bonne humeur avec lequel il se soumit à tous ses caprices. Il ne s'étonna de rien et quand il sut ce qu'on attendait de lui, il se mit immédiatement à la besogne et signa tous les bulletins de convocation qu'on lui présenta. À 6 heures, le valet de chambre de la Vaubourg, sur un coup de téléphone de son maître, vint avec une valise l'habiller. Sonia avait dit en riant à son ami qu'il était son prisonnier, qu'elle ne lui permettrait pas de faire un pas sans elle, prétextant qu'on pouvait avoir besoin de lui d'un moment à l'autre. En secret, il glissa un pli à son valet de chambre qui reçut la commission de courir chez Hérisson. Le valet de chambre le quitta et revint le trouver presque immédiatement. Au moment de sortir de l'hôtel, on lui avait fermé la porte au nez et deux individus l'avaient assez grossièrement invité à venir faire une partie de cartes avec eux dans la loge du concierge. « C'est bien, Jean, » dit la Vaubourg en reprenant le pli qu'il mit dans sa poche. « Allez jouer aux cartes, mon ami, et ne faites ici que ce que l'on vous permettra de faire. Vous êtes aujourd'hui aux ordres de Mademoiselle Liskine. » La Vaubourg alla trouver sa belle maîtresse et lui fit part de l'incident, sans en montrer du reste aucune méchante humeur.
« Vous faites bien de ne pas vous froisser, mon ami, » lui dit Sonia. « La consigne est générale.
Le secret est dans cette maison. On ne doit plus en sortir qu'avec moi. Askov va venir tout à l'heure. Bien que je vous recommande de ne rien lui dire qui ne soit absolument nécessaire, lui non plus ne nous quittera plus. » Et comme Askov entrait justement, « Voici le baron. Eh bien, partons. Où allons-nous dîner ?» Ils allèrent dîner au bois, puis ils passèrent une heure dans un petit théâtre à la mode. Partout, ils firent sensation. D'abord, Sonia était très en beauté, et on admirait aussi l'abattage de la Vaubourg que quelques-uns croyaient déjà sous les verrous. Dès 10 heures du soir, au grand parc et dans les dancings, c'était une trépidation étourdissante et continue. Paris s'était mis là à virer, à tourner, à foxtrotter, à tanguer. On jouissait de l'heure dans la terreur du lendemain. Allait-on périr? Allait-on être sauvé? En attendant, dansons! Et les modes, comme au pire temps du directoire, donnaient à cette cohue un air de mascarade. C'était, dans la corbeille des loges, des flores, des ébés, des grecs, des orientales, mais la plus belle et la plus admirée, ce soir-là, était entre la Vaubourg et le baron d'Askov, qui avait la fièvre de ce merveilleux voisinage autant que de leur vengeance prochaine. C'était la belle Sonia. Quand elle apparut dans sa loge et qu'elle laissa tomber son manteau, il y eut un murmure d'admiration. Parmi ceux qui la dévisageaient avec le plus d'assiduité étaient 3 personnages assis à une table à quelques pas de la loge. C'étaient 3 braves bourgeois qui ne devaient guère être habitués du lieu. Ils paraissaient être plus offusqués par tout ce qu'ils voyaient que transportés d'enthousiasme. Et la toilette de Sonia en particulier semblait exciter leurs critiques. L'un d'eux fixait même l'artiste avec effronterie. Elle tourna la tête et ne s'occupa plus de ces 3 imbéciles qui ne savaient point rendre hommage à la beauté, quand celle-ci fait la grâce aux passants de lui montrer un peu de ses aimables secrets. « Détourne la tête, courtisane et hontée !» fit M. Barquimel à mi-voix, assez prudemment pour n'être entendu que de ses voisins. « Rougis, si tu le peux encore, du scandale que tu provoques, femme indécente. Mais tu ne feras pas baisser les yeux à un honnête homme. » Mais M. Florent était d'un avis différent. Il ne l'envoya pas dire à M. Barquimel. Les 2 amis se chamaillèrent, si bien que tout à coup, M. Hilaire, visiblement agacé, se leva en priant ces messieurs de ne point se déranger et en leur annonçant qu'il serait de retour tout de suite. Et il sortit du bal. C'était la 3e fois qu'il se livrait à ce manège. « Il est incompréhensible !» exprima M. Florent. « Et je me souviendrai de sa journée de congé. » Comme notre maître épicier venait de sortir, un monsieur, copieusement barbu, enveloppé d'un ample pardessus et coiffé d'un chapeau de feutre mou qui lui descendait sur les yeux, vint s'installer sur sa chaise. « Cette chaise est prise, » déclara M. Barquimel. « Elle appartient à un de nos amis qui va venir et qui ne sera pas content de trouver sa place occupée, » ajouta M. Florent. Mais les 2 braves bourgeois pouvaient dire tout ce qui leur plaisait, l'intrus ne paraissait même pas les entendre. « Enfin, monsieur, êtes-vous sourd ?»« Quoi, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites ?»« Nous vous disons que cette chaise est retenue. »« Non, messieurs, non, cette chaise n'est pas retenue. Quand une chaise est retenue, on met quelque chose dessus. Mais il n'y avait rien sur cette chaise. Je la garde. » « Ah, ça ! Mais, monsieur !» exprima M. Florent avec une grande dignité qui fit l'admiration de M. Barquimel. « Ah, ça ! Nous prenez-vous pour des imbéciles ?»« Oui, messieurs !» répondit l'homme au chapeau mou. Messieurs Barquimel et Florent se regardèrent avec des yeux de flamme, comme s'ils se consultaient pour réduire en bouillie cet impertinent personnage. Puis, M. Florent, toujours avec la même dignité, laissa tomber ces mots.
Du moment où vous le prenez sur ce ton, monsieur, nous n'avons plus rien à dire.
Très bien, fit monsieur Barquimel. L'homme, avec sa chaise, s'éloignait insensiblement de la table, se rapprochant ainsi de la loge occupée par la belle Sonia.
« Il a peur !» dit monsieur Florent. « Tu lui as bien rivé son clou !» dit monsieur Barquimel.
Sur ces entrefaites parut monsieur Hilaire, qui s'étonna de n'avoir plus de chaise.
« C'est monsieur qui vous l'a prise !» expliqua monsieur Barquimel.
« Par exemple ?» s'écria monsieur Hilaire. À ce moment, l'homme quitta la chaise et s'appuya de dos contre le coin de la loge de la belle Sonia, et monsieur Hilaire courut reprendre son siège, ce qui fit sourire l'homme.
« Il n'a point pipé !» observa monsieur Barquimel.
« Au fond, c'est un lâche !»«
Sans compter qu'il a de drôles de façons, cet Olibrius !» fit remarquer monsieur Florent. « Regardez-le, comme il se glisse devant la loge, les mains derrière le dos.
« Moi, si j'étais à la place de la belle Sonia, je me méfierais, et je ne laisserais point pendre comme ça mon réticule.
« Tenez, voilà l'homme qui passe devant le réticule. Il est passé, et le réticule est parti.
« Au voleur !» s'écria monsieur Hilaire d'une voix éclatante. L'homme était déjà loin, se faufilant parmi les groupes du côté de la porte de sortie.
Monsieur Hilaire se précipita. « Au voleur, arrêtez cet homme !»
Monsieur Hilaire fut immédiatement entouré, bousculé et même frappé.
« Mais quel voleur ! Quel voleur ! » lui criait-on et on le rouait de coups.
Monsieur Hilaire, dégagé par un garde municipal, put enfin donner des explications.
« C'est un homme qui a volé le réticule de la belle Sonia !»
Tous les regards se tournèrent vers la loge de l'artiste.
« On vous a volé votre réticule ?» demanda le garde.
« Moi ?» répondit la belle Sonia. « Mais je n'avais pas de réticule !»«
Mais enfin, je n'ai pas rêvé !»
s'écria monsieur Hilaire, exaspéré. « Il y avait bien là, tout à l'heure, un réticule qui pendait hors de la loge et que madame tenait à la main. »«
Cet homme est fou !» dit la belle Sonia.
« Quand on a l'habitude de se divertir à ce genre de plaisanterie, fit un autre, on reste dans les bals musettes.
« Monsieur n'a pas l'habitude de fréquenter le beau monde,
fit tout à coup une voix étrange, sourde, rauque, rocailleuse, qui semblait sortir de terre. À cette voix, monsieur Hilaire tressaillit. Il aperçut un vieillard, effroyablement cassé en deux par les ans, qui se traînait ici et là comme une larve, laissant derrière lui, à presque toutes les tables et sur le bord des loges, quelques-unes de ses petites cacahuètes dont il portait un petit baril plein à son bras tremblant.
« Ah ! Voilà papa cacahuète ! Voilà papa cacahuète ! »
criait-on à diverses tables. Monsieur Hilaire avait enfin trouvé le marchand de cacahuètes qu'il cherchait. Il était tel que mademoiselle Jacqueline le lui avait décrit. C'était bien lui qui intéressait tant la marquise du Touchet. Alors, il oublia tout le reste pour ne plus s'occuper que de papa cacahuète, et il revint s'asseoir à sa table en épiant toutes les manœuvres du singulier vieillard. Monsieur Hilaire en lui-même se répétait
« Cette voix ! Quelle est cette voix ?» « J'ai déjà entendu cette voix-là quelque part, moi. Mais quand ? Il me semble qu'il y a longtemps, longtemps. Bon, le voilà qui revient par ici. Attention. Il passe le long des loges. Voilà qu'on lui fait signe de la loge de la belle Sonia. Mais il s'en fiche. Il ne se presse pas plus que ça. Là, le voilà qui dépose un cornet de papier rose sur la loge. Mais qu'est-ce qu'elle a, la belle Sonia ? Eh bien... « Et le monsieur à la barbe d'or qui est à côté d'elle, il ne va pas se trouver mal !»
De fait, dans la loge, le passage du papa cacahuète faisait sensation. Sonia s'était d'abord amusée de ce vieillard bizarre, accueilli par les cris et les lazzis de tous.
Puis elle s'était étonnée que la direction d'un établissement aussi riche permît à ce pauvre vieux de venir traîner ses loques au milieu de tout ce luxe.
« Ah, c'est qu'il est bien difficile d'empêcher le père Cacahuète de passer par où il veut, » dit Askoff. « Il est connu dans tous les établissements de nuit. Il est l'ami de tous les fêtards, de toutes les noceuses. On dit qu'il a plus d'argent qu'il n'en a l'air, et qu'à force de vendre des olives et des cacahuètes, il a amassé un petit magot. Il y a beaucoup de légendes qui courent sur le père Cacahuète. »
« J'ai entendu dire, émit la Vaubourg, qu'il était de la police. »«
C'est possible, » répliqua le baron. « Tout est possible dans cet ordre d'idées. Mais le père Cacahuète me paraît bien vieux, bien délabré pour qu'on attache quelque prix à ses services. » »«
Qu'y aurait-il de surprenant à ce que la police usât de lui pour faire parvenir certains mots d'ordre ?»
exprima la Vaubourg à mi-voix. « Nous en avons bien eu l'idée, nous !»«
Justement, » fit en riant le baron Askoff, « j'ai eu cette idée de Cacahuète en voyant certains soirs le père Cacahuète distribuer sa marchandise avec des airs de mélodrame à ses clients. « Tenez, voilà le père Cacahuète qui revient. Faites-lui signe !»
La Vaubourg appela le bonhomme. Askoff, au fond de la loge, le regard tranquille et le cœur en repos, regardait venir papa Cacahuète. Le pauvre vieux s'avança, sans se presser, et demanda à Sonia, de son effroyable voix rauque et sourde,
« Olive, Cacahuète ?»«
Cacahuète, » répondit Sonia.
« Pour combien, belle madame ?»«
Pour ce que vous voudrez. » Le bonhomme prit une cuillère et s'en servit pour verser sa marchandise dans un cornet de papier qu'il ferma et qu'il déposa sur le bord de la loge. Sonia aussitôt ne put s'empêcher de jeter un léger cri. Le cornet était de papier rose, exactement le même papier que celui qui contenait la fameuse liste qui avait été dérobée chez Jacques et retrouvée d'une façon si inexplicable chez elle.
« Oh, ce papier !» dit-elle à voix basse,
et elle avança sa main tremblante.
« Qu'est-ce qu'il y a, belle dame ?» demanda la voix rauque et sourde. « Sais-tu que ma marchandise ne vous plaît point ?»«
Si, si !» répondit hâtivement la belle Sonia en finissant de développer le cornet. Alors, sur le papier déplié, elle lut « Vive le commandant Jacques !»
« Ne trouvez-vous point cela extraordinaire ?»
murmura-t-elle en montrant le papier à la Vaubourg.
« J'ai des devises pour tous les goûts, moi. Papa Cacahuète se fiche pas mal de la politique. J'ai des devises « Vive le commandant Jacques !» et j'en ai d'autres « Vive le gouvernement !» Mais personne n'en veut. Personne n'en veut du gouvernement. C'est bien dommage, il va me rester pour compte. »
« ça va !» fit la Vaubourg impatientée.
« C'est bon, je m'en vais !» fit papa Cacahuète.
« Mais, tenez, v'là quelques cacahuètes par-dessus le marché. C'est pour le monsieur qui vous accompagne, belle dame. Non, pas celui qui est si impatient. L'autre là-bas, celui qui est au fond et qui ne dit rien. »
Le baron tendit la main en souriant. Le vieillard lui mit dedans un petit lot de cacahuètes, mais qu'il compta au fur et à mesure. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 »
À ce chiffre, on vit le baron faire un mouvement de surprise. « 12 » Sa main trembla. « 13 » Le baron Askoff s'appuya à la cloison. Sonia et la Vaubourg le regardèrent. Il était devenu effroyablement pâle.
« Qu'avez-vous ? Vous êtes malade ? Non, oui, un étourdissement. »«
Eh bien, partons !» dit Sonia en se levant. Elle jeta un coup d'œil sur papa Cacahuète, qui maintenant bavardait avec les trois individus qu'il avait dévisagés avec tant d'effronterie quand elle était arrivée dans sa loge.
« Appuyez-vous sur mon bras, » dit-elle à Ascoff. « Vous me paraissez souffrir. »
Si les légers incidents qui avaient marqué le passage de Papa Cacahuète dans la loge de la belle Sonia avaient ému sérieusement la belle artiste, que dire de l'angoisse grandissante avec laquelle M. Hilaire écoutait maintenant la voix du vieux. Ah, cette voix! Ce qu'elle ressemblait à une autre voix qu'il avait bien chérie jadis, une voix qu'il ne pouvait jamais entendre sans tressaillir, une voix qui lui avait inspiré toutes les peurs et tous les héroïsmes. Certes, ce n'était pas la même. Elle n'avait pas cet éclat horrible qui faisait trembler les entrepôts au temps prodigieux du Bayard, quand elle commandait le chambardement général et la révolte des forçats. Ô souvenir, ô mémoire, ô livre du passé, qu'il avait bien pensé ne jamais rouvrir. Tant de sang effacé par tant d'honnêtes kilos de mélasse de la grande épicerie moderne. Pauvre monsieur Hilaire, pitoyable la ficelle. Jadis mince comme un filin, aujourd'hui boudiné, grassouillé comme une andouille. Voilà qu'il grelotte dans ses beaux habits du dimanche, comme jadis dans les loques dont il recouvrait sa misérable silhouette, au temps où il fallait tant travailler pour mériter un peu de paix dans cette vallée de larmes. Monsieur Hilaire, comme tout le monde, acheta des cacahuètes. « Dites donc, papa Cacahuète, » fait-il en surmontant l'émotion qui lui étreint la gorge. « Savez-vous bien que j'en vends, moi aussi, des cacahuètes ?»«
Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?»
répondit le bonhomme fort désagréablement.
« À vous, rien peut-être, mais à moi, ça me fait concurrence. »
explique M. Hilaire qui veut être aimable en dépit de toutes les rebuffades du vieux.
« Monsieur est dans l'épicerie !» exprime Monsieur Florent.
« Vous n'avez pas besoin de le dire, ça se voit. »«
Combien je vous dois, mon brave homme ?»
demande Monsieur Hilaire, horriblement vexé.
« Il y a longtemps que mon seigneur est épicemard, » fit le bonhomme en empochant sa monnaie. « Plus de 15 ans !» répond Monsieur Barquimel.
« 15 ans !» répéta Papa Cacahuète. « La bourse de commerce n'a plus qu'à bien se tenir. »«
Fichons le camp !» commanda aussitôt M. Hilaire, dont la patience cette fois est à bout.
Mais le Papa Cacahuète arrête un instant le bouillant M. Hilaire par les pans de son habit.
« Pardon, excuse, monseigneur, mais dites-moi un peu, dans votre boutique, c'est-y qu'on vendrait de la morue ?»
« Bien sûr qu'on vend de la morue, et puis après ?»«
Mais de la vraie, de la bonne, de la morue à l'espagnol. »
À ces mots, M. Hilaire chancela. « Ah, comme l'autre l'aimait, la morue à l'espagnol !» Tandis que d'un air égaré, ses yeux cherchaient la silhouette du marchand de cacahuètes qui avait disparu, ses lèvres murmuraient pour lui tout seul, et si bas que nul n'eût pu les entendre, les syllabes fatidiques qui commencent par un C et par un B. Ch-b-b, ch-b-b. Dans le même moment, un grand tumulte éclata dans l'assemblée. Un homme était monté sur une table et lisait tout haut la dernière édition d'un journal du soir, le journal des clubs, la feuille de Coudry. Et M. Hilaire, malgré le piètre état auquel la morue à l'espagnol avait réduit son moi, put entendre ceci. Club de l'Arsenal, présidence du citoyen Tolosé. Compte rendu de la séance de nuit. Le citoyen Tolosé a mis aux voix et a réussi à faire voter par une assemblée délirante d'enthousiasme, patriote, une motion tendant à ce que tous les clubs de la capitale demandent à la Chambre de rétablir la loi sur la peine de mort en matière politique et au gouvernement de faire dresser la guillotine du peuple sur la place de la Concorde, quand cette place était digne de s'appeler « Place de la Liberté ». En fin de séance, le citoyen Tolosé a fait voter le vœu que la première tête qui tombera sous le couteau politique fut celle du commandant Jacques du Touchet, traître au pays et à la République. Aussitôt, il y eut des cris, des exclamations, des injures, des horions. On criait « Vive le commandant !» et « À mort le commandant !» ou « À la maison de fous, Tolosé !» « Au feu, le club de l'Arsenal !» Et ce qui était plus important pour M. Hilaire, « À la rivière, le bureau de l'Arsenal !» Aussitôt, M. Hilaire, qui s'était laissé tomber défaillant sur une chaise, se trouva seul comme par enchantement. M. Barquimel et M. Florent avaient disparu. Puis tout à coup, il se trouve entouré d'un groupe des plus hostiles. Et il paraît que c'est vous le secrétaire de l'Arsenal ?»«
Moi ?»
s'exclama M. Hilaire qui eut un trait de génie.
« Moi ? Je ne sais pas lire !»
Le malheur était qu'il avait les poches bourrées de journaux, ce dont on s'aperçut, et que ces journaux n'étaient point précisément de la nuance appréciée par les amis du commandant.
« Allô ! Allô, le secrétaire du club de l'Arsenal !»
Et déjà, deux forts gaillards faisaient mine de le charger sur leurs épaules. Tout à coup, il y eut une voix rauque qui prononça «
Voulez-vous bien laisser mon ami tranquille? Vous n'allez pas lui faire du mal, peut-être. C'est un épicemar qui me donne mes cacahuètes pour rien. »
« Ah, bien, fallait le dire, papa cacahuète. » Et ils lâchèrent ce pauvre monsieur Hilaire, qui déjà était plus mort que vif. Monsieur Hilaire regardait le marchand de cacahuètes qui était resté près de lui avec une émotion indicible. Il ne pouvait dire dans sa reconnaissance que deux mots, et encore, il n'osait pas les prononcer bien haut.
« cher bib,
soupirait-il les mains jointes, les genoux tremblants.
« Chut !»
fit l'étrange vieillard en levant un doigt sur sa bouche. Et il lui fit le signe impératif de le suivre, tandis qu'il riait sourdement.
« Ah, c'est bien son rire, je reconnais son rire. On ne peut pas se tromper à un rire pareil. Et il n'y a pas deux rires au monde comme le rire de Chb. »
De quel pays de damnation revenait donc ce revenant? Monsieur Hilaire, le physique malmené et le moral profondément atteint, ne sachant exactement s'il devait se réjouir ou s'épouvanter d'une aussi prodigieuse rencontre, M. Hilaire traversa, derrière cette larve redoutable qui rampait dans les ténèbres, le grand parc en tumulte.